Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour notre chronique d'histoire locale. Nous débutons finalement cette année 2021. On a été ensemble pendant toute l'année 2020 avec différentes chroniques qu'on vous a proposées sur différents sujets, pour parler d'histoire locale, comme par exemple avec de l'archéologie, le protestantisme, le curé de Nîmes avec Gérard Boutet. On a évoqué différents sujets et donc on commence cette année 2021. Bon, on n'a pas pu vous proposer de sujets en janvier parce que la situation est un petit peu délicate en ce moment. Mais là, donc, on commence avec un nouveau sujet donc, que je vais vous présenter. On va parler d'histoire locale, mais avant tout, on va parler de nature, d'environnement et d'écologie. Mais l'histoire de tous ces thèmes, évidemment, c'est des sujets qui ont toujours été sur le devant de la scène, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on les introduit dans l'histoire de France, l'histoire, finalement, de l'humanité. Je vais vous présenter Pierre Legrand, qui est avec nous, qui va présenter ce sujet. Alors, Pierre Legrand, c'est un ancien agriculteur donc, qui était à Sougy. Et il a également été président du conseil d'administration de la sucrerie d'Artenay. Donc il connaît bien évidemment le secteur. Et puis il connaît particulièrement bien ces différents sujets que sont la nature, l'environnement et l'écologie. Donc ça va être notre sujet de discussion d'aujourd'hui. Bonjour Pierre Legrand.
Bonjour.
Alors, donc, comme je disais, ces thèmes de la nature, de l'environnement, sont, on en discute tous les jours aujourd'hui pour différentes raisons. On traite ces sujets de différentes façons. Finalement, c'est plus un problème qu'un sujet. De quelle façon on en parle aujourd'hui, Pierre Legrand ?
Je dirais qu'aujourd'hui, régulièrement, on entend parler d'écologie et souvent, quand on nous en parle, c'est plutôt sur un mode catastrophisme. J'ai un certain âge et je pense que je prends un peu de recul par rapport à cette situation et je l'analyserai, moi, peut-être d'une façon un peu plus objective ou, comment dire, moins stressante.
Oui, vous prenez du recul, finalement, par rapport à ça.
Ça me semble indispensable. Oui. Je suis né juste avant la guerre de 1940. J'ai le souvenir que mon père était aussi agriculteur. J'ai le souvenir de ce que l'on faisait à cette époque-là et les difficultés de l'époque. Toute la société s'est adaptée à l'évolution, à son évolution. Et aujourd'hui, pour en parler peut-être un peu plus, je me suis servi de deux livres en particulier qui ont traité de ce sujet. Donc, comme introduction, je vais dire que ma vision est sans doute contestable, mais on va pouvoir en débattre. La nature, tout le monde rêve d'une belle nature. C'est notre environnement terrestre, notre cadre de vie. Elle nous fournit nos ressources, ce sont nos paysages. Nous devons respecter les hommes qui l'entretiennent. La propreté, c'est l'affaire de chaque personne qui reçoit une bonne éducation familiale, scolaire, citoyenne. Les forestiers entretiennent les forêts afin d'obtenir de beaux arbres. Les agriculteurs font de même dans leurs champs. Quand on traverse la France, en toute région, ils cultivent et entretiennent leurs parcelles. Les bords de route sont propres. Les animaux, selon les heures, sont couchés à l'ombre des haies taillées. Nos paysages resteront bien entretenus seulement si les personnes qui les cultivent gagnent correctement leur vie. Dans certaines régions, des surfaces agricoles ne sont plus cultivées. La forêt s'implante à nouveau. Combien d'années faudra-t-il attendre avant de l'exploiter et pour quelle rentabilité ?
Alors effectivement, la forêt, on est juste à côté ici de la forêt d'Orléans. On dit souvent qu'il y a différentes maladies qui posent problème en forêt, des maladies qui posent des problèmes aux arbres. Et donc ça fait partie de l'environnement et des sujets qui sont traités en ce moment. Donc l'environnement, alors Pierre Legrand.
Oui, alors c'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. C'est l'endroit où chacun de nous vit. Il comprend l'air, le sol, l'eau, la faune, la flore, les champignons, etc. Il évoque tout ce qui est autour de nous. Il résulte de la longue évolution des espèces sur la planète. C'est un bien commun que nous devons préserver et léguer aux générations futures. On peut le diviser en plusieurs rubriques : protection des oiseaux, développement durable, désertification, réchauffement climatique, etc.
Je vous arrête, Pierre Legrand,
oui.
Parce que finalement, vous parlez par exemple de protection des oiseaux, de développement durable. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais finalement, pour en revenir à l'histoire, c'est des sujets qui ont toujours été débattus. Vous avez parlé de 1940, un petit peu avant, la façon dont vous travailliez à l'époque, vos parents, vos grands-parents, la façon de travailler la terre. L'écologie, c'est pas un thème uniquement contemporain, ça a toujours été un thème dans l'histoire qu'on a discuté, qu'on a fait progresser.
Si je me souviens de mon enfance, mon père était donc aussi agriculteur avant moi. Aujourd'hui, je dirais qu'il cultivait d'une façon biologique. Il ne le savait sans doute pas. Mm-hmm. Pratiquement, il ne mettait pas d'engrais, puisqu'à l'époque, il y avait des animaux sur la ferme.
Oui.
Le fumier servait d'engrais. On avait beaucoup de main-d'œuvre pour biner et désherber les parcelles. Donc la façon de cette époque était totalement différente de ce qu'elle a pu être dans les années suivantes.
On faisait de l'écologie sans le savoir, finalement.
Et c'est certain. Par contre, à l'époque, nous avions une population mondiale qui était bien inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Et les rendements étaient aussi plus faibles. Mais aujourd'hui, avec une population de 7,5 milliards d'habitants, il faut produire nécessairement davantage pour alimenter toutes ces personnes qui arrivent sur le monde et qui auront besoin chaque jour de se nourrir.
Mmh. Et les conséquences de tout ça, finalement, c'est un petit peu quand même le réchauffement climatique. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, pour parler du réchauffement climatique, je me suis servi de deux auteurs. L'histoire du climat depuis l'an 1000 est écrit par Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel Leroy-Ladurie est un professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et le premier historien à s'être intéressé au climat. Mon second livre, je me suis appuyé sur François Gervais, qui a écrit un livre dont le titre est « L'urgence climatique est un leurre ». Physicien, professeur à l'université de Tours, François Gervais a été directeur d'un laboratoire du CNRS. Il a été expert sur l'évolution du climat au GIEC. J'ai parcouru aussi un troisième petit document, les catastrophes météo dans le Loiret. Ce document a été écrit par Madame Karine Pinault, historienne attachée aux archives départementales.
Oui, et ça, c'est un ouvrage intéressant parce que ça permet de voir que finalement, des catastrophes climatiques, dans le sens où on l'entend aujourd'hui, il y en a eu beaucoup dans le passé. Si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, déjà à l'époque, il y avait des tempêtes, il y avait des températures assez inégales. Et donc finalement, ce qu'on connaît aujourd'hui, on l'a beaucoup connu par le passé.
Alors, pour moi, c'était peut-être, en relisant ces livres, ça a été pour moi la confirmation de ce qu'il fallait savoir rester serein dans tout ce que l'on nous annonce pratiquement en permanence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, je dis que ça a toujours existé, que la nature a des cycles. Si je reprends M. Leroy-Ladurie, afin d'apprécier les températures annuelles pendant longtemps, on a utilisé la date du début des vendanges dans une même région. On ne tenait pas compte de la date du début des moissons, car elle pouvait être influencée par des dates de semis différentes. Ainsi, on a un relevé de la date des vendanges qui va de 1484 à 1952. La décennie 1941-1950 fut la plus chaude de la première partie du XXe siècle. Elle fut aussi la plus sèche, avec 400 mm en moyenne décennale dans la région de Pithiviers. Et là, j'insiste, parce que 400 mm de moyenne pendant 10 ans, dans mon parcours d'agriculteur, je n'ai jamais connu cela.
Et donc finalement, il y a un côté un petit peu catastrophiste aujourd'hui dans la façon de présenter les choses, en nous disant que ce qui arrive, c'est pas normal, alors qu'en fait, c'est déjà arrivé il y a 50 ans ou il y a 100 ans.
C'est ce que je pense. Mmh. Régulièrement, on nous fait peur en permanence.
Les médias nous font peur, surtout.
Oui, ben les gens qui parlent. Alors, les médias sont aussi les porte-parole de personnes qui s'expriment sur le sujet. Donc, c'est toute une organisation qui nous amène à ces réflexions que je considère comme excessives. Mmh. Si je reprends M. Leroy-Ladurie, un refroidissement général est constaté au XIVe et XVe siècle. L'avance des glaciers atteint son maximum avec les XVIIe et XVIIIe siècles. Lors de ces périodes plus froides, on constate une baisse des rendements. Pour un grain semé, on récolte à l'époque environ 10 grains. Durant les années sèches et chaudes, la mauvaise qualité de l'eau augmente la mortalité. 700 000 morts lors des étés caniculaires de 1718 et 1719 avec l'apparition de nuées de sauterelles. Au cours de la période 1860-1870, on constate un recul des glaciers alpins comme on n'en avait jamais vu au cours des deux siècles qui précèdent. Au siècle suivant, l'année 46-47, presque sans neige, verra un nouveau démantèlement des glaciers alpins. Dans les Pyrénées françaises, le glacier du Grand Cirque du Portillon a presque entièrement disparu entre 1912 et 1956. Dans cette période, une année pluvieuse entraîne souvent la destruction des céréales qui étaient alors la culture essentielle et la ressource presque unique de l'alimentation. De 1646 à 1652, six années pluvieuses provoquent au printemps une terrible misère. L'année 1675 est froide. Et le 28 juin 1675, Madame de Sévigné écrit alors à sa fille en Provence : Il fait un froid horrible. Nous nous chauffons encore et vous aussi, ce qui est une bien grande surprise. Durant ce mois de juillet 1675, Madame de Sévigné note un froid étrange et toujours de la bise, et de se demander si le procédé du soleil et des saisons était changé.
Ok. Donc là, je vous interromps en se disant que finalement, vous présentez ça sous la forme de cycles, finalement, des cycles froids, des cycles chauds. Le XVIIe siècle dont vous parlez tout à l'heure, on le présente souvent en disant que c'était le petit âge glaciaire. Mais moi, je me dis quand même que c'était des cycles qui n'étaient pas dus finalement à l'être humain. Alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe quand on parle de réchauffement climatique, c'est quand même des éléments, des faits qui sont dus à notre façon de vivre, de consommer, de produire. Donc c'est peut-être un petit peu différent,
non ? Oui, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas excessif en nous disant que c'est de notre faute, alors qu'à l'époque où on consommait peu, on était beaucoup moins nombreux sur la planète et la nature avait été aussi excessive. Donc il y a autre chose que l'incidence des hommes sur le climat.
Oui.
Et si on parcourt, c'est un peu l'analyse qui sera faite à partir de mon second livre.
Ok. Finalement, on est un petit peu trop dans l'accusation, dans le catastrophisme, alors qu'il faut se baser finalement sur les faits, et c'est ce que vous venez de faire. Finalement, quand on étudie l'histoire, c'est des faits objectifs, c'est pas de l'interprétation. Donc,
Ben c'est pas moi qui l'ai écrit.
Voilà,
c'est Monsieur Leroy-Ladurie, et lui a passé certainement beaucoup de temps pour observer tout ça. Et je pense qu'il y a d'autres historiens dans différentes régions qui ont pu faire les mêmes observations.
Alors que finalement, la façon dont les médias nous présentent les choses, finalement, peut-être que c'est un petit peu de l'interprétation et qu'il ne faut pas non plus exagérer, peut-être.
C'est ce que je pense. Arrêtons de nous faire peur en permanence.
Ok, je vais vous interrompre. On va faire une petite pause publicitaire et musicale et on se retrouve dans quelques instants. Oui, monsieur Legrand.
Oui, bon.
À tout à l'heure.
Merci.
D'accord.